message, il est universel. Quand un musulman parle, un vrai musulman, un vrai chrétien doit se reconnaître en lui. Quand un vrai chrétien parle, un vrai musulman doit se reconnaître en lui. Quand un vrai juif parle, un vrai musulman doit se reconnaître en lui. C'est cette vérité universelle pour laquelle et à laquelle nous sommes à la quête et que nous devons être tous unis. Là où on veut nous diviser, nous devons être unis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Au nom de Dieu et la prière et la paix sur le messager de Dieu, sa famille ainsi que sur tous les prophètes. La louange à Dieu. Nous le louons, nous cherchons ce secours et nous comptons sur lui. Et nous cherchons bien sûr tout d'abord refuge en Dieu contre Satan, le maudit, le malin, le lapidé. Et je reviens vers vous, mes frères et mes sœurs, que ça me fait plaisir de vous retrouver et de pouvoir continuer notre série d'analyses et revenir brièvement sur ce que nous avions évoqué la semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, nous avions évoqué cette histoire de... On avait évoqué un peu Moïse, et puis la parole, le langage qu'il y a entre Moïse et son peuple, et le Saméri. Et nous avions aussi évoqué le mont, la vallée sacrée dans laquelle Moïse reçoit la révélation, sur laquelle je vais revenir brièvement, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je dirais 2 mots sur le mot « Toua ». « Innaka bilwad il-muqaddas » et « Toua », tu es certes dans la vallée sacrée de Toua. Et je vais revenir sur ce mot « Toua » parce que je ne l'avais pas évoqué la semaine dernière. Et sur le fait aussi que j'avais évoqué quand Dieu parle dans le livre de Dieu, dans le Coran, quand il parle, s'adresse à son messager, au messager de Dieu, et qu'il lui, entre guillemets, conte l'histoire de Moïse et qu'il lui dit « tu n'étais pas du côté droit ou sur le flanc droit du mont Tour ». C'est à peu près ça la traduction. Et que nous avions évoqué, parce que certaines personnes n'avaient peut-être pas bien compris l'esprit de ce que nous avions évoqué par rapport au temps, parce que ça avait un rapport avec le temps, et je vais revenir un peu aussi là-dessus, afin que cela soit plus clair. Et puis, une fois qu'on aura vu ces 2 points, je rappellerai ce qui est important dans notre époque, et à qui nous nous adressons, à qui je m'adresse. Et nous évoquerons aussi l'histoire de Moïse, une histoire que vous connaissez, qui est très très attirante, interpellante. C'est l'histoire de Moïse lorsqu'il va à la rencontre du maître, que l'on nomme dans les récits Al-Khidr, et qui est nommé dans le Coran Al-Abd al-Saleh. Et cette histoire, lorsqu'il veut aller à sa rencontre, j'évoquerai les versets du Coran et ce qu'il y a autour de cela. Comment nous pouvons l'appréhender et puis le découvrir sous un angle encore différent, parce que nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, et je reviendrai aussi sur l'histoire de Salomon et de Balkis, donc la reine que l'on nomme aussi communément la reine de Saba. Quel était ce trône qu'elle avait, Balkis? Et quel mystère se cache lorsque Soleiman lui envoie une lettre et qu'il demande à ce qu'on ramène son trône et qu'il déclare, d'ailleurs c'est ça qui est interpellant, et qu'il déclare, Mais pour avoir des pistes de réflexion, il faudra rester jusqu'à la fin par rapport à ce sujet-là. Et qu'il déclare que amenez-moi son trône avant qu'il ne vienne soumis. Et la question qui se pose, c'est comment Suleyman pouvait-il savoir qu'elle aurait terminé l'histoire de la reine de Saba par être soumise, elle et et ceux qui l'entouraient. Donc restez avec moi, vous allez voir, ça va être intéressant. Et donc je reviens sur l'histoire de la vallée Tour. Donc nous avions évoqué le fait que cette vallée sacrée plonge l'homme, le croyant, celui qui aspire à Dieu, dans une dimension qui est hors du temps. Et pourquoi donc je voulais vous dire un mot sur le mot Towa? Parce que le mot Towa va dans cette direction-là. Le mot Towa, on peut en avoir une appréciation différente selon les analyses que nous pouvons effectuer, mais sachez que le mot Towa, il y a la racine du verbe yatrui. Yatrui, ça veut dire plier, il plie. Donc il y a le fait ou cette notion d'être plié. Et comme vous le savez, il y a une chose dont Dieu parle dans le Coran et il est dit le jour où nous roulerons la terre, enfin roulerons nous comme un parchemin la terre et les cieux, etc. Et tout ceci, mes frères et mes sœurs, et à la lumière des sciences aussi, et de ce qu'avait développé Einstein avec le temps et la théorie de la relativité, enfin, pour ceux qui connaissent un peu les travaux d'Einstein, je leur conseille de revenir un peu sur ces travaux scientifiques parce qu'ils sont importants et parce qu'ils sont liés à toute ces analyses que nous faisons qui apparemment sont des analyses religieuses, mais qui bien sûr sont des analyses scientifiques et que la science vient confirmer le fait religieux et le fait religieux est raffermi par le fait scientifique. Et c'est important de ne pas dissocier les deux parce qu'ils vont de pair. Et la chose qui peut être pliée, c'est le temps. Le temps et l'espace. Alors le Coran le confirme, je vous dis à travers, lorsqu'il dit le jour où la terre et les cieux seront roulés comme un parchemin. Enfin, je le traduis à peu près comme ça. Hein. Et c'est d'ailleurs le mot, c'est dommage, j'ai pas repris le verset là, mais c'est d'ailleurs ce même mot qui vient du mot toi, yatoui, il me semble, hein, à vérifier. Et donc, toi, c'est la vallée où le temps est plié. C'est-à-dire, c'est la vallée où le temps, il est un temps qui est hors du temps. Donc, nous rentrons dans la notion de atemporel. Comme vous le savez, le Coran, les histoires et tout ce que nous avons, tout ce que nous évoquons dans le Coran, il a une dimension, tant que nous sommes attachés à la vie de ce monde, et nous restons dans une dimension terrestre et donc une dimension du temps qui est terrestre. Mais Dieu nous appelle à un autre temps. Et c'est pour ça que de là, je vais revenir brièvement sur l'histoire du flanc droit. Lorsque Dieu révèle au messager de Dieu, tu n'étais pas du côté du flanc droit à Moïse. Il est important, mes frères et mes sœurs, que vous compreniez, que je comprenne avec vous, que le Coran, il est pour les croyants une interpellation. Chaque chose que vous lisez dans le livre de Dieu, il doit susciter en vous une recherche et une démarche scientifique. Et là, la question que nous pouvons nous poser, et que j'avais mis en évidence la dernière fois, mais peut-être que ce n'était pas assez clair. C'est que lorsque Dieu révèle au messager de Dieu, et qu'il dit à Moïse, enfin qu'il dit de Moïse au messager de Dieu, tu n'étais pas là. C'est une évidence. On appelle ça, je pense, une figure du style qu'on appelle la palissade. Que Dieu me pardonne de dire ça parce que on est en train de parler de Dieu, mais vous allez comprendre. Pourquoi Dieu s'attache-t-il dans le livre de Dieu à affirmer et à insister sur une telle évidence? Eh bien, tout simplement, mes frères et mes sœurs, parce que Dieu veut nous interpeller sur la dimension du temps dans lequel ces histoires se sont passées et la dimension du temps dans lequel Dieu veut que nous rentrions ou que nous soyons. Lorsqu'il dit « tu n'étais pas du côté du flanc droit », il est en train de dire au messager de Dieu qu'il est certes conscient que dans l'histoire du temps terrestre historique, il n'était pas là, mais il y était dans un autre temps. C'est pour ça qu'il affirme et qu'il réitère et qu'il met en évidence qu'il n'était pas là. Parce qu'en réalité, lorsque nous sortons de cette dimension terrestre, il y était. Pour preuve, et je l'avais dit la dernière fois, mais peut-être que c'est passé inaperçu, lorsque Dieu cite dans le livre ce verset du Coran qui dit que tous les prophètes ont prêté allégeance au messager de Dieu. Est-ce que c'était sur terre que ça s'est passé ça? Dans quelle dimension ça s'est passé? Ça s'est certes passé dans une dimension qui est atemporelle, qui est en dehors du temps. Donc, toutes les histoires qui ont été vécues par les prophètes, le messager de Dieu en est le père. Il est la source de ces histoires. Donc ces histoires-là, lorsque nous rentrons et nous parlons de la dimension atemporelle du Coran, du livre, de l'islam, parce que c'est à ça que nous sommes appelés, eh bien, vous comprenez que cela nous interpelle et que cela est en train de nous dire, si vous voulez pénétrer, comprendre, capter l'essence et la réalité de ce qui se cache derrière ces histoires, vous devez sortir du temps terrestre et aspirer à la dimension atemporelle. Et il n'y a que à cette condition-là que vous pourrez véritablement comprendre la réalité de ces histoires, et que je le dis et je le répète parce que je le dis à chaque fois, et que ces histoires, si nous les faisons sortir du temps, et que donc nous leur donnons toute leur réalité, alors nous pouvons comprendre quelle est la réalité de ces histoires dans le temps que nous vivons aujourd'hui. J'espère que cette fois c'est bien clair pour ceux qui n'ont pas, peut-être qui n'avaient pas encore bien compris cette histoire, tu n'étais pas là, et que moi je disais, si il était là. C'est une histoire, uniquement une histoire de temps. Sortez du temps, sortons du temps ensemble et nous comprendrons. Alors ça, c'était l'histoire du mont Tour et puis du Tour, tu n'étais pas sur le flanc droit du mont Tour. Ensuite, mes frères et mes sœurs, j'aimerais revenir avec vous ces analyses que nous effectuons. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi que je remercie tous les frères et les sœurs qui m'envoient des messages mail. Je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir y répondre au jour le jour. C'est pour ça que j'y réponds souvent de manière très, très décalée. En tout cas, sachez que je lis tous vos messages et que j'essaierai d'y apporter une réponse qui m'incombe. Et ces analyses que nous effectuons, elles ne s'adressent pas aux musulmans uniquement. Elles s'adressent à tous les hommes, à toutes les femmes. Sans en dépassant toutes les tous les carcans, toutes les tout ce qui peut faire de nous un clan ou un groupe ou une division. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons juifs, que nous soyons bouddhistes, que nous soyons athées. Cela s'adresse à ceux qui comprennent que l'homme a une grandeur et qui veulent retrouver cette grandeur de l'homme qui a été en réalité évoquée par tous les prophètes et par les grands hommes de manière générale. C'est à cette unité de la science que Dieu nous invite. C'est fini de parler de, comment dirais-je, de choses qui sont propres à nos religions ou à notre foi qui peut être en dehors d'une religion. Mais parlons de ce qui nous unit. Et je pense que tout homme sincère, tout homme qui réfléchit, toute femme qui réfléchit un peu, se rend compte que l'homme a quelque chose de particulier. Il y a une grandeur qui se cache en l'homme. C'est cette grandeur que nous recherchons. C'est pour cette grandeur que nous devons œuvrer. Nous, nous pensons, parce que cela est évoqué par la Genèse, et en particulier par l'histoire par l'histoire islamique et à travers le Coran, que Dieu, cette dimension qu'il a donnée à l'homme, et cette particularité qu'il lui a donnée, c'est la particularité d'une science qu'il n'a donnée qu'à l'homme. C'est pour ça que je cite à chaque fois ce verset du Coran, « Wa allama Adam al-asma a kullaha » et il enseigna à Adam tous les noms. C'est-à-dire, il donna à Adam, il a donné à Adam la science, toute la science. Bien sûr, nous l'avons évoqué, que c'était la science innée, que ça n'avait rien à voir avec la science acquise, puisque la science acquise, elle est celle de Moïse, excusez-moi, elle est celle de Iblis, et que la science innée, elle est la particularité de l'homme. Si vous me suivez bien, mes frères et mes sœurs, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'il n'y a aucune différence entre nous. Nous devons regarder le fait scientifique et nous devons rechercher à servir l'humanité à travers cette particularité que Dieu a donnée à l'homme. Tout simplement ça. Et nous sommes, et nous pouvons, et nous devons tous être unis sur cette voie-là. Nous devons être des chercheurs, mes frères et mes sœurs. C'est ce qui est demandé à chacun d'entre nous, de rechercher la vérité. Et de ne pas dire « moi, je détiens la vérité », de dire « moi, je suis en quête de la vérité ». Et la vérité ne fera que se préciser et devenir de plus en plus clair. Ça, c'était pour la partie à qui s'adressent ces analyses. Et je remercie aussi tous les chrétiens qui m'envoient aussi des messages et que ça me touche beaucoup. Et je suis vraiment heureux de pouvoir que ces analyses puissent toucher autant de monde. Normalement, si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu et que nous souhaitons le plus sincèrement être des témoins, normalement, le message, il doit être compris par tous. Le message, il est universel. Et quand un musulman parle, un vrai musulman, un vrai chrétien doit se reconnaître en lui. Quand un vrai chrétien parle, un vrai musulman doit se reconnaître en lui. Quand un vrai juif parle, un vrai musulman doit se reconnaître en lui. Quand un, etc., etc., vous m'avez compris. C'est cette vérité universelle pour laquelle et à laquelle nous sommes à la quête et que nous devons être tous unis. Là où on veut nous diviser, nous devons être unis. Donc de là, mes frères et mes sœurs, je reviens comme promis sur l'histoire de Moïse et de cette rencontre qu'il recherche. et qu'il est accompagné de son valet. Et vous allez voir, je vais vous citer les versets du Coran, donc le verset 60, 61, 62, 63 de la sourate, et 64, je citerai aussi, de la sourate La Caverne. Alors, quand Moïse dit à son valet, ou à son celui qui est un chevalier, le fata c'est un chevalier, hein, il n'est pas accompagné par n'importe qui, Moïse, hein, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers du Sège marché de longues années. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son valet, « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. » Le valet lui dit, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Alors Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Alors mes frères et mes sœurs, la question qui se pose, c'est, qu'a-t-il compris Moïse à ce moment-là, lorsque ce chevalier lui raconte qu'il a oublié le poisson et que le poisson a repris ce chemin. Alors, le poisson a repris son chemin, ça veut dire que le poisson a repris la vie. Donc, à ce moment-là, Moïse, il comprend que cet endroit-là, c'est un endroit où il y a un phénomène particulier qui fait que les choses prennent vie. Le poisson reprend la vie et Moïse comprend le signe qu'il recherchait parce que de quoi était-il en quête? C'est vrai, il recherchait le maître. Mais pourquoi recherchait-il le maître? Il recherchait le maître parce qu'il recherche la vie. Il recherche tout ce qui donne ou qui redonne et qui peut redonner la vie. Et là, je fais un parallèle, mes frères et sœurs. Quelle est la différence entre deux hommes, entre deux paroles? Un homme est un homme et il fait certaines choses. On en a un qui vit comme un animal. Il se nourrit, il boit, il mange, etc. Comme un animal, ni plus ni moins. Et on a un homme qui vit comme un animal, mais qui, lui, a une conscience qui lui fait faire d'autres choses. Ces autres choses qu'il fait, c'est qu'il essaie de retrouver la grandeur à travers cette conscience que Dieu a mis en lui. Ces deux hommes, lorsque je les regarde, ils paraissent pareils. Mais l'un va vers une direction et l'autre va dans une autre direction. Et elles sont opposées, cette direction. Parce que celui-là est un mort et l'autre est un vivant. Eh bien, la parole, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre la parole de celui-ci et la parole de celui-là? Celui-ci, il peut parler et dire des choses et dire des belles choses, mais il n'y a pas de vie dans ses paroles parce que ses paroles, elles proviennent de lui, de son intelligence, de son propre raisonnement. Donc sa parole n'est pas vivante. Tandis que l'autre, lorsqu'il parle, il ne parle pas de lui-même. Sa parole provient d'ailleurs. Elle provient du ciel. Elle provient de la science innée, vous pouvez dire. Elle provient d'une source qui est prophétique. Cette parole, elle redonne la vie. Cette parole, elle transforme. C'est cette parole-là dont Moïse est à la quête et dont nous devons être à la quête. Et je vous fais une petite parenthèse, une petite histoire qui est contée dans les pays du Moyen-Orient. C'est l'histoire d'un mystique. Alors, bien sûr, Je vais évoquer à travers un récit de Ali ibn Abi Talib, le gendre du messager de Dieu, son cousin, hein, le mari de Fatimatu Zahra, celui que l'on nomme pour nous les musulmans d'obédience chiite, l'imam Ali, alayhi salam, ce que c'est le mysticisme. Ça ne doit pas être à l'image de ce qu'on a déjà vu à la télé, quelqu'un qui s'est complètement privé et qui s'est isolé complètement des hommes et qui vit tout seul et qui adore Dieu tout seul. Ça peut être dans un temps dans notre vie, c'est ce qu'on appelle la quarantaine, et que nous pouvons vivre de cette manière-là 40 jours, pas plus, et que nous devons avoir un maître pour pouvoir le faire, pas autrement. Mais le vrai mysticisme que l'imam Ali décrit, il dit, le vrai mysticisme, ça n'est pas de ne rien posséder, mais c'est que rien ne te possède. Et il y a une grande différence entre les deux. Et donc, ce mystique, qui avait une certaine foi et une certaine science, décide un jour de rendre visite aux élèves d'une école théologique. Il va dans cette école et puis il voit comment les élèves étudient et il les interroge. Alors il interroge un tel et un tel, donc il lui dit « qu'est-ce que tu apprends? Comment apprends-tu? Qu'est-ce que tu découvres ?» etc. Donc un tel lui dit « écoute, j'étudie avec tel maître, tel shir. » Il interroge un autre, l'autre lui dit « j'étudie dans tel livre qui a été écrit par tel savant, etc. etc. » Et puis il pose comme ça un certain nombre de questions à ses élèves, jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui l'interpelle et qui lui dit « et toi, maître, shir, savant, il lui dit « comment, d'où tires-tu ta science? Comment tu apprends toi? Dis-nous comment toi tu fais ?» Et là, il leur répond cette sentence. Il leur dit, vous prenez votre science des morts, et moi je la prends de celui qui est vivant et qui donne la vie. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est ça la différence. Soit je suis de celui qui a capté le message des prophètes, qui a capté qui étaient les prophètes. C'était des hommes, certes, mais c'était des hommes vivants. Nous ne sommes vivants qu'à une seule condition, que nous suivons leurs traces. Sinon, nous ne sommes pas vivants. Et sinon, notre parole n'est pas vivante. Et ce que nous devons rechercher, c'est la vie. Et vous verrez que tout à l'heure, avec le dernier sujet que je vais évoquer, il y a cette histoire de vie qui est importante et que sans cette vie-là, eh bien, nous n'avons que très peu. Voilà pour cette histoire de Moïse, cette histoire de vie que Moïse recherche et qu'il va découvrir en revenant sur ses traces et en accompagnant ce fameux Abd as-Salih et les histoires qui vont suivre. Ce dénouement qu'il va y avoir et ces péripéties qu'il va y avoir entre Moïse et ce Abd as-Salih qui bien sûr va le mener à un degré de la science encore supérieur. De là, mes frères et mes sœurs, je reviens vers l'histoire de Salomon et de Balkis. Salomon a été éprouvé. Comme vous le savez, quand vous lisez l'histoire, il a été éprouvé par quoi? Il a été éprouvé. Enfin, il a été éprouvé par plusieurs choses. Mais là, la chose que je vais évoquer, c'est lorsqu'il voit ce corps sans vie sur ce trône. Sur son trône, excusez-moi. Et qu'il demande pardon à Dieu. Et qu'il demande à Dieu de lui donner un royaume qui n'aura pas de semblable. Un royaume terrestre, nous l'avons déjà vu, c'est un royaume terrestre dont Souleyman parle et qu'il demande. Alors, Nous avions évoqué, déjà par le passé, il y a quelque temps déjà, qu'un corps sans vie, c'était ce que l'on nomme aujourd'hui un robot. C'est un corps, puisqu'aujourd'hui nous fabriquons des robots qui sont comme des êtres humains et qui réfléchissent à travers l'intelligence artificielle et les algorithmes et les statistiques, etc. Et qui sont comme des hommes qui ont l'image d'hommes, mais à la différence des hommes, ils n'ont pas d'âme. Ils ne sont pas réellement vivants. Ils apparaissent comme vivants, mais ils ne sont pas vivants. Et il y a des hommes aujourd'hui, comme vous et moi, qui sont à l'image de ces robots. Ils paraissent vivants, mais ils ne sont pas vivants. Nous, ce que nous recherchons, c'est la vie. C'est ce que les prophètes nous ont enseigné par excellence. Je pense à Jésus, par exemple, alayhi salam. Et tous les prophètes, bien sûr. Je dis Jésus parce que il était dénommé Ruhallah, l'esprit de Dieu, l'esprit qui donne la vie. De là, mes frères et mes sœurs, donc là, je vous ai un peu parlé de Salomon, et j'ajoute une chose. Salomon détenait quelque chose de spécifique. Il avait la maîtrise de la science atemporelle ou de la science innée. Pourquoi dis-je cela? Parce que tout simplement, vous connaissez l'histoire avec le général des génies, Ifritun min al-Jinn, qui est dénommé dans le Coran. Donc un génie qui est au service bien sûr de Soleiman et qui avait un rang particulier. Hein. On peut dire que c'était un général, une unité spéciale. Et puis, la personne qui est dénommée comme étant celle qui détient une science du livre. Et Salomon, et c'est de là que je vais partir vers la reine de Saba, et Salomon dit... Puisque vous connaissez l'histoire, la huppe qui est en retard, puisqu'il y a une assemblée, etc., la huppe est en retard. Et Moïse, il lui dit, tu as intérêt à voir, je vous le dis rapidement. Salomon, je vous le dis rapidement, je le résume. Salomon lui dit, si tu n'as pas une raison valable, tu vas voir de quel bois je me chauffe. En gros, hein, je le dis de cette manière-là. Et donc, elle vient lui ramener le message qu'il y a une reine à qui Dieu a donné, on lui a donné toute chose, et qui se prosterne. Alors, il n'est pas dit, et c'est ça que j'insisterai dessus, et dont il est dit d'elle qu'elle se prosterne, elle et puis ceux qui sont avec elle, qui se prosternent devant le soleil en dehors de Dieu. Il n'est pas dit qu'elle adorait le soleil, hein. Qu'elle se prosternait devant le, il y a une nuance, hein, qu'elle se prosternait devant le soleil en dehors de Dieu. Alors je reviens à Salomon, il demande, il dit, qui me rapportera son trône? Alors le général des génies dit, moi je peux te le ramener avant que tu te lèves. Donc le génie, je le répète, il a la maîtrise parfaite de la science acquise. La science terrestre. Et il est capable de ramener ce trône avec une vitesse qui dépasse notre l'entendement, mais qui reste une vitesse. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et celui qui détient une science du livre, lui, il dit, moi, je te le ramène avant le clignement de l'œil. Donc, vous comprenez que avant le clignement de l'œil, c'est instantané. C'est-à-dire que pour cette personne-là, les choses sont présentes. Parce que lui, ce personnage-là est dans une dimension du temps qui est une dimension hors du temps, qui est une dimension atemporelle. Tandis que l'autre fait encore les choses, c'est-à-dire le général des génies, fait encore les choses avec une dimension du temps terrestre, mais ultra rapide. J'espère que vous me suivez bien. Parce qu'il y a toujours cette histoire de la temporalité, je ne sais pas si nous pouvons le dire comme ça en français, si ce mot existe, mais en dehors du temps atemporel ou la temporalité si ça existe. Et cette reine de Saba, il est important de comprendre ce qu'elle faisait et dans quel état elle était et pourquoi elle se prosternait devant le soleil. Et surtout, cette question que j'ai posée au tout début de l'analyse, et que je reviens vers cette question, c'est que Salomon va envoyer donc une lettre à cette reine. Et il va prédire, en gros, dans cette lettre, il prédit, parce qu'il dit qu'elle va devenir soumise, avant qu'elle ne devienne soumise. Donc, il prédit qu'elle va devenir soumise. Comment Salomon a-t-il pu prédire qu'elle allait devenir soumise? Eh bien, mes frères et mes sœurs, vous devez entendre que chacun a un parcours. Chacun, celui qui a une conscience et qui recherche le pourquoi de l'existence, le pourquoi de la création, le pourquoi de son existence, et qui découvre une part de la grandeur de l'homme, il est en quête. Mais dans cette quête, mes frères et mes sœurs, c'est ça que nous devons chacun comprendre. Dans cette quête, nous n'arrivons pas d'une minute à l'autre au résultat et à la fin du parcours. Le parcours, il est parsemé d'embûches, de péripéties, d'obstacles, d'épreuves, etc., etc. C'est facile de dire, allez, je vais prendre cet exemple-là, c'est facile de dire, oui, l'islam, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais en quel sens? Est-ce que tu la vis, cette vérité-là? Ou alors tu as entendu parler qu'il paraît, parce qu'il y a un messager qui est venu et qu'il a dit, il n'y a de Dieu que Dieu, donc c'est la vérité, moi je crois en cette vérité, mais je crois de manière raisonnable. Je ne vis pas cette vérité. Je n'ai pas été éprouvé pour cette vérité. Je n'ai pas découvert, recherché pour cette vérité. Et je le déclare comme ça. Mais qui es-tu pour déclarer, pour faire de telles déclarations? As-tu eu un cœur éprouvé par la foi pour faire de telles déclarations? Parce que Dieu, que dit-il dans son Saint-Livre? Il dit, croyez-vous que je vais vous laisser dire, nous croyons, sans que nous vous ayons éprouvé? Mais attention, éprouvé pour la foi, c'est-à-dire sur le chemin de la vérité, et dans le travail que vous faites pour la vérité, vous êtes éprouvé parce que vous rencontrez des obstacles sur ce chemin-là. Je ne vous parle pas des obstacles de la vie de ce monde. J'ai perdu mon père, ma mère, etc. Ça fait partie. Tout le monde vit cela. Moi, je parle des épreuves que Dieu met sur notre chemin pour nous éprouver, pour nous faire vivre l'islam, pour nous faire comprendre l'islam, pour que nous soyons de vrais témoins. C'est de ça que je suis en train de parler. Eh bien, Balqis, elle est dans une démarche de recherche. Mais son problème, lequel est-elle? Lequel est-il plutôt? Et pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire d'Abraham. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham, le parcours d'Abraham. Abraham, il voit une étoile et il dit « ça, c'est mon Seigneur ». Et puis, il voit cette étoile disparaître. Il dit « c'est pas possible parce que mon Seigneur ne peut pas disparaître. » Et puis, il continue sa recherche. Regardez la sincérité. C'est un prophète dont on est en train de parler, mes frères et sœurs. La lune. Il regarde la lune. Même chose. Et il arrive au soleil, même chose. Mais il va aller plus loin. Il comprend, après le soleil, que ce n'est pas non plus le soleil, mais que son Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. Avec tout ce qu'il découvre à travers les expériences que Dieu met sur son chemin. Eh bien, mes frères et mes sœurs, Balqis, elle se prosterne devant le soleil, parce que sur son chemin et dans son parcours, elle s'est arrêtée là. Elle s'est arrêtée au soleil, et elle n'est pas allée plus loin. Qu'est-ce que Souleymane comprend? Il comprend qu'elle est dans une démarche scientifique, mais que son problème, c'est qu'elle s'est arrêtée à ce moment-là et que lui, il a la solution pour elle. N'oubliez pas, Souleymane, C'est un héritier de Abraham, alayhi salam. Donc lui, il a l'expérience. Lui, il sait, il connaît les différentes étapes. Donc il sait à quel point est arrivé Balqis. Donc il sait que lorsqu'il va lui envoyer cette fameuse lettre, elle va y répondre et que comme il va lui proposer en réalité quelque chose qui dépasse le soleil, alors elle va l'accepter. Mais pourquoi l'accepte? Parce que d'ores et déjà, elle est déjà dans cette démarche-là. Donc c'est une continuation de la démarche dans laquelle elle était. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, les subtilités qui peuvent se cacher derrière la démarche scientifique, spirituelle de celui qui recherche Dieu. Nous devons être des chercheurs. Nous devons être des gens qui recherchons la vie. Sinon, nous sommes à l'image des robots. Et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est avec cela que je conclurai cette analyse. Ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, à travers l'intelligence artificielle et à travers les robots qui commencent à prendre une part de plus importante dans nos vies. Hein, parce que quand on dit le mot robot, on s'imagine déjà un homme, un homme robot, quoi. Mais c'est subtil. Le téléphone est un petit robot. Vous avez des petits robots aspirateurs à la maison, etc., etc. Donc petit à petit, la robotisation va faire partie de votre quotidien. Mais le problème, alors nous avons déjà évoqué que le problème, il était si le robot devient celui qui décide à notre place, là ça devient dangereux. Ça nous l'avions déjà évoqué. Mais le problème, le plus gros problème, c'est qu'on veut faire de nous des robots, des gens qui ne réfléchissent plus ou qui réfléchissent mais qu'avec la méthode de l'intelligence artificielle et la méthode de l'intelligence acquise. On ne veut pas que nous ayons accès à la science des prophètes, à la science des imams, à la science qui donne la vie, à la science de ceux qui ont une âme, de ceux qui ont une âme pacifiée, de ceux qui sont vivants, qui ont retrouvé l'esprit. On ne veut surtout pas que vous retrouviez cela. Parce que, mes frères et mes sœurs, la voie pour retrouver cette vérité, eh bien, elle est celle-ci. Et sans cela, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et le monde qui est en train de construire Iblis, ce faux paradis qu'il est en train de construire en vous faisant croire que le monde de la science acquise à travers les robots et l'intelligence artificielle, il est le monde qui donne la réponse à toutes les questions, alors que ça n'est nullement le cas. Et la preuve, c'est que si vous regardez l'actualité, vous savez que par exemple, je vous dis ça très rapidement, vous savez qu'ils ont beaucoup utilisé l'intelligence artificielle dans cette dernière épreuve qu'a vécue l'humanité à travers le coronavirus. Et pourtant, où en sommes-nous? L'intelligence artificielle a-t-elle apporté une réponse sûre et certaine à ce défi? Qui est cette épidémie ou ce virus. Les scientifiques, ça n'est pas moi qui me parle, demandez aux vrais scientifiques, hein. Ne demandez pas aux scientifiques politisés, hein, parce que vous comprendrez bien qui ils servent. Les vrais scientifiques, si vous leur posez la question, ils vous diront que ce n'est pas la technologie qui apportera une solution durable et définitive aux défis que nous vivons aujourd'hui. Et nous, ce que nous disons, et ce que nous aimerions partager avec tous, c'est vous dire à tous, mes frères, mes sœurs, en l'humanité, à tous, je m'adresse sans catégories de religions, à tout le monde. Soyez des chercheurs. Recherchez ce que Dieu a mis de beau en vous. Recherchez la grandeur qu'il y a en chacun de vous. Parce que Dieu a mis en vous, en nous, en l'homme, une science qui n'est détenue que par l'homme. Et que si nous la retrouvons et que si nous y avons accès, alors nous avons la clé pour pouvoir nous en sortir et être l'alternative à tous les défis qui nous sont présentés aujourd'hui ou qui sont sur notre chemin aujourd'hui. Soyez des chercheurs de vérité. Ne soyez pas attachés à la vie terrestre. L'homme n'a pas été créé pour la vie terrestre. La vie terrestre, elle ne dure qu'un temps. La vraie vie, elle est en dehors du temps. C'est cette vie que nous devons retrouver. C'est cette vie que nous devons rechercher. Parce que cette vie, c'est l'immortalité. C'est l'éternité. Alors mes frères et mes sœurs, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis endurance, courage dans vos démarches et dans vos recherches. Faites confiance au Créateur et avec la permission de Dieu, tous ensemble, nous retrouverons le chemin qui mène à la félicité et qui mène au paradis qui a été, dont Dieu nous a parlé dans son saint livre et dans tous les saints livres et qui n'a aucun pareil et qui n'est pas du tout le paradis dont vous avez entendu parler avec Iblis qui veut faire un paradis qui n'est autre qu'un paradis terrestre, donc un paradis qui est amené à disparaître alors que Dieu vous invite à l'éternité. Je vous souhaite, mes frères et mes sœurs, à tous la paix et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.